Bonjour chers auditeurs, nous, vous l'avez entendu par le titre, nous revenons sur cette loi sur la fin de vie, tout simplement parce qu'elle va être maintenant en discussion au Sénat. Il y a déjà eu une commission sénatoriale qui a planché, disons, là-dessus, et les débats devraient maintenant commencer d'ici quelques jours. Je pense que rien n'est acquis en matière de vote. Toutes les prévisions que l'on peut faire ou statistiques, etc. Moi, je suis pas très confiant dans ces choses. Ce qui compte, c'est le résultat, quand on aura le résultat. Mais ce qu'on peut dire, c'est que tout de même, la grande désorganisation des partis politiques tels que nous la voyons depuis, surtout à la Chambre des députés, à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, montre qu'il y a quand même de grandes incertitudes. Et qu'il y a certainement, mais alors, il y a un certain nombre de parlementaires qui semblent avoir pris conscience de la gravité de la chose. Et je ne sais pas s'ils se sont convertis, parce que je me méfie, vous prenez, on nous a dit la même chose du président de la République, que pendant un temps, il hésitait. Et en fait, il n'hésitait pas du tout. C'était de l'hypocrisie. Disons les choses comme elles sont. Là, on nous dit que des parlementaires hésitent. J'ai beaucoup plus confiance, je le dis, j'ai le droit de le dire, hein, j'ai beaucoup plus confiance, surtout dans les sénateurs. Dans le Sénat, qui est une assemblée que je respecte beaucoup et qui est absolument nécessaire, puisqu'il faut bien deux chambres, le bicamérisme dans une démocratie. J'ai beaucoup plus confiance dans ce que peuvent dire les sénateurs que actuellement les députés. Malheureusement, c'est comme ça. J'aimerais pouvoir en dire autant dans les deux chambres. Donc, il y a, je crois, le problème n'est pas encore résolu et vous verrez qu'il donnera lieu à un certain nombre de débats. Alors, il y a déjà quand même, sur le plan strict de la loi, c'est pour ça que j'ai demandé à Maître Gilbert Collard d'être avec nous. Maître, je vous remercie d'être là.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Je vous en prie. Et voilà, je voudrais me faire référence d'abord à deux textes qui existent. L'un dans le code civil à propos du suicide.
Le code pénal.
Le code pénal, pardon. Alors,
oui. Oui, bonjour Maître Collard.
Oui, bonjour.
J'évoque avec vous l'article 223-13 du code pénal sur le fait de la provocation au suicide. Je cite le texte. Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide. La question, est-ce que le projet de loi sur la fin de vie va à l'encontre justement de ce texte ?
Alors ça, c'est une première chose. Et puis je voudrais tout de suite dire la deuxième, qui est liée à la déclaration universelle des droits, à l'article 1 de notre Constitution de 1958, qui dit que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Là, il y a un premier problème. L'égalité devant la loi, sans distinction, donc de tous les citoyens, d'origine, de race ou de religion. Or, on sait très bien que les autorités religieuses, par exemple en France, qu'elles soient chrétiennes dans leur forme catholique ou protestante, ou juives ou musulmanes, se sont prononcées contre cette loi sur la fin de vie. Donc le délit d'entrave, qui quand même comporte une amende de 70 000 euros, et deux mois de prison, fait que tout de même, c'est pas tout à fait la République n'assure pas l'égalité des citoyens, parce que ceux qui sont affiliés à ces religions, ils sont là punis. Et puis il y a cette phrase aussi, toujours à l'article 1, elle respecte toutes les croyances. Alors, en ce qui concerne les catholiques, depuis 2020, existe un texte de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui s'appelle ce texte le Bon Samaritain, qui condamne expressément l'euthanasie et le suicide assisté, et qui va même jusqu'à donner des précisions qui sont assez rares, hein. D'habitude c'est plus général, mais là on donne une précision même quant à l'exercice du sacrement, et vous allez voir que c'est grave, que si quelqu'un qui est en maison, qui va procéder à son suicide assisté ou à son euthanasie, demande à un prêtre, le prêtre ne peut y aller que pour le dissuader, et s'il n'arrive pas à le dissuader, le prêtre doit partir au moment où commenceront les opérations en question et ne pas lui donner les derniers sacrements, même s'il les demande. Alors, ça paraît comme ça, faut imaginer la scène, hein. Quand moi j'ai vécu sur place des demandes, bon, heureusement j'ai pas eu à refuser, mais il faut voir ce que c'est qu'une ambiance d'agonie et de, bon, vous imaginez, là, il sera pas agonisant puisque il faudra attendre la piqûre, mais vous imaginez la scène. Voilà. Alors, est-ce que il n'y a pas, donc, violation déjà de, est-ce qu'il faudra pas à ce moment-là que, si cette loi malheureusement passait, bah, il faudrait donc supprimer du code pénal ce qui vous a été lu. Et puis, alors, est-ce qu'il y a possibilité d'attaquer l'État compte tenu de cet article 1 de la Constitution?
Voilà ma question. La question m'est posée?
Oui, oui.
Oui. Alors, la loi aujourd'hui est le reflet de la société. Elle est pleine de contradictions, elle est pleine de confusion. Moi, du temps où j'étais étudiant, les vieux professeurs nous disaient que les mots de la loi, il faut les peser au trébuchet. Elles sont d'une importance considérable. Aujourd'hui, la loi est rédigée de telle manière qu'elle est fuyante presque, insaisissable, interprétable d'une manière qui est complètement extensible. Alors là, on est en présence de textes qui se contredisent. D'où la nécessité, mais quand on connaît le Conseil constitutionnel, on a peu d'espoir, d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Oui.
Lorsqu'un prêtre ou un croyant fervent sera poursuivi pour avoir commis ce qu'on appelle maintenant, dans un langage syndicaliste, le délit d'entrave, il faudra immédiatement poser une question de constitutionnalité pour faire valoir l'idée que ce texte n'est pas constitutionnel dans la mesure où il se heurte à la Constitution de 58 dans son article que vous avez lu et dans la mesure où il se heurte également par voie de contradiction textuelle à l'article 223-13 du Code pénal. Il n'y a plus que le Conseil constitutionnel si la loi est votée dans cette ambiance morbide, parce que quand même on est dans une société qui aime la mort, c'est
oui.
Incroyable.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, et justement, je pense qu'en 58, on connaissait encore le poids des mots en matière légale, comme on le connaissait.
Voilà.
Je fais la comparaison, vous savez, avec la théologie. Malheureusement, c'est pareil, parce que la théologie, elle vit pas dans une bulle, elle vit aussi à une certaine époque. Or, je vois bien qu'aujourd'hui, pour des gens de ma génération, j'ai 82 ans, donc c'est très difficile de parler avec des jeunes théologiens qui ont appris leur théologie récemment, parce que les mots n'ont plus le même sens. Et ils emploient même des mots, ils fabriquent même des néologismes, voyez-vous. Alors là, ça ne va plus.
Oui. Moi, je l'ai expérimenté il y a peu de temps. Là, j'étais avec un jeune prêtre qui prépare un doctorat de théologie en ecclésiologie.
Oui, ah ben.
Quand je lui ai parlé de saint Thomas d'Aquin,
oui.
Il le connaissait, bien sûr, mais il ne l'avait pas lu.
Eh ben voilà. Ah oui, voilà. On peut sortir d'un séminaire.
Ils ne l'ont pas confessé, mais avoué.
Je sais bien.
Il ne l'avait pas lu. Il avait lu des passages, des extraits. Or, je pense que de votre temps qui était béni, comme vous, les prêtres avaient lu saint Thomas d'Aquin.
Eh bien, écoutez, moi, j'ai fait, vous savez, j'étais pasteur protestant, hein, et donc j'ai fait mes études à la faculté de théologie protestante de Paris. Eh bien, il y a eu un grand cours sur saint Thomas d'Aquin, fait par le professeur de dogmatique réformée et qui avait invité un prêtre catholique, théologien, spécialiste aussi de saint Thomas. Voyez-vous ? Et donc, mais ça c'était, c'est comme saint Augustin. Maintenant, on peut sortir d'un séminaire et être prêtre sans avoir lu saint Augustin ou saint Thomas d'Aquin, ce qui est pour moi absolument scandaleux. Alors, je voudrais aller plus loin.
Petite anecdote, puisqu'on est là-dessus. Moi, je m'amuse souvent. Je vous ai fait, du reste, quand on s'est vu la question. De savoir quelle traduction de l'évangile les prêtres connaissent. Mais Crampon, ils ne connaissent pas, Oski, ils ne connaissent pas, certains, pas tous, bien sûr, attention, hein. Port-Royal, ils ne connaissent pas, Second, ils ne connaissent pas, ils connaissent que le texte, alors la Bible de Jérusalem, peut-être un peu, et encore non, ils connaissent que le document officiel que nous lisons, à la messe et tous les jours.
C'est ça.
C'est quand même étonnant, je trouve.
Alors, que je rappelle quand même que la version officielle de l'Église catholique, c'était confirmée par le Concile de Trente, est la Vulgate.
Et la Vulgate, voilà.
Et que la Vulgate, elle existe en français. Et qu'il est très intéressant de se reporter à la Vulgate, parce que saint Jérôme a eu connaissance de... On le voit bien dans sa traduction. De manuscrits qui ont été perdus. Et c'est pour ça que c'est un témoin très précieux, même si il a rédigé en latin et tardivement par rapport à l'autre manuscrit, mais il avait en sa possession, notamment pour l'Ancien Testament, des textes que nous n'avons plus. Voilà.
Voilà. Alors revenons.
Oui.
À notre
alors, voilà, temps, mais alors justement, pour aller, on sait ce que vaut le Conseil constitutionnel, mais enfin bon, il existe, donc. On ira. Seulement, voilà, est-ce que dans l'état actuel des choses, parce que vous savez très bien que dans nos laïcs d'aujourd'hui, je dis bien d'aujourd'hui, parce que ce n'était pas le cas de ceux de 1881-85, c'est-à-dire ce n'était pas le cas de gens comme Jules Ferry et même Émile Combes. Même Émile Combes.
Mais pas du tout.
Ben oui, parce que lui connaissait le catholicisme. Hein, il avait même été...
Écoutez, j'ai fait une expérience hier. J'ai, grâce au père Noblet, qui est le curé d'Aigues-Mortes, j'ai été appelé à faire une conférence sur la mystique de Saint-Louis.
Oui.
En l'église Saint-Louis, construite par le Saint-Roi.
Oui.
Quand il partit pour...
Pour la croisade, oui, oui.
Et j'avais apporté, pour commencer ma conférence, le fameux livre d'histoire de Lavis. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Et bien sûr, à vous, oui. Lavis, alors la couverture dit que ce livre était la Bible des hussards noirs de la République. Eh bien, quand on lit le passage sur Saint-Louis, il est incroyablement respectueux.
Mais bien sûr.
Il est même catholique, il est même religieux.
Ah ben ces gens, vous comprenez.
Et pourtant, alors voyez comme quoi on déforme complètement l'histoire.
Bah, ces gens-là avaient fait leurs études, vous comprenez. Émile Combes a quand même fait sa thèse de doctorat en lettres. Quand on faisait une thèse de doctorat en lettres, il y en avait une en français et une en latin. Et c'était sur Saint-Bernard. Et
oui.
Et oui, donc par conséquent, bon, ils savaient très bien, c'est des gens qui voulaient pas ratiociner sur les gloires de la France, voilà, c'est tout, parce qu'ils étaient patriotes.
C'est ça, voilà, et, mais vous avez tout dit comme d'habitude, voilà.
Ouais, j'étais patriote, voilà, donc Saint-Louis, voilà. Bah, c'est vrai que j'écoutais votre confrère Badinter, il y a quelques mois avant sa mort, là, parler de Saint-Louis et qui disait, bon... Bien sûr, malgré les problèmes qu'il y avait avec les Juifs, il n'y a pas été très tendre, mais enfin, c'était l'époque. Mais il a doté la France d'une justice extraordinaire. Voilà,
c'est grâce à lui que nous avons la présomption d'innocence dans la loi. On l'a oublié, ça. C'est lui qui a supprimé l'ordalie.
Absolument.
Le jugement de Dieu. C'est lui qui a créé le système des enquêtes.
Ben oui.
Et dans une de ses ordonnances, c'est lui qui a défini les règles que devaient suivre les, offic- royaux.
Oui. Donc,
pour éviter, alors, pour éviter ce qu'on appelle aujourd'hui les conflits d'intérêts.
Bon, donc ça introduit donc ma question subsidiaire parce que on voit très bien que le catholicisme, c'est pas, enfin la pratique d'une religion, c'est pas seulement aller à la messe le dimanche ou dire des prières dans sa chambre, mais c'est aussi avoir un certain comportement dans la vie de la cité. Hein. Et une des raisons qui ont fait porter Saint-Louis sur les autels, justement, c'est cela. C'est son comportement de roi chrétien vis-à-vis du bien commun et vis-à-vis de ceux qu'on appelait ses sujets, pour qu'ayant une bonne justice, ils puissent aussi préparer leur âme. C'est pour ça que les papes étaient contre la séparation des églises et de l'État, pour préparer leur âme au salut éternel. Donc, le comportement dans la vie de la cité fait partie de la pratique religieuse. Or, pour nos laïcs actuels, la vie religieuse, c'est la messe et les prières chez soi. C'est privé. Ça revient à la conscience privée. Alors, ce que je crains, c'est pour ça que je vous pose cette question, vous allez voir pourquoi. Ce que je crains, c'est qu'on dise, mais la République, elle respecte bien sûr la religion, elle ne vous empêche pas d'aller à la messe, mais elle vous oblige à faire les actes de suicide assisté ou d'euthanasie. Bon, alors, c'est là qu'il faudrait peut-être que l'Église, aujourd'hui, ça allait de soi à l'époque de Saint-Louis, mais il faudrait peut-être que l'Église en fasse un peu plus, peut-être, pour montrer que pratiquer une religion ou exprimer une croyance, ça se borne pas à des actes rituels à l'église, mais que ça se traduit par des actes concrets dans la vie de la cité. Et alors, peut-être, alors bon, vous avez ce texte du pape, fera peut-être que le pape en rajoute, peut-être que les évêques en rajoutent, puisque depuis Vatican II, tout de même, le rôle des évêques a été considérablement défini et développé. Ils ont un très très grand pouvoir. Il ne faut pas croire que l'infaillibilité pontificale écrase le pouvoir épiscopal. Justement, c'est pour ça qu'on a réuni Vatican II, et que d'ailleurs Vatican I voulait en parler, mais n'a pas pu le faire, puisque la guerre franco-prussienne fait que l'unité italienne a rendu le pape prisonnier dans Rome, et que par conséquent, il ne pouvait pas légiférer là-dessus. Donc, est-ce que la législation catholique, qu'elle vienne du pape ou des évêques, est incomplète en ce qui concerne la pratique religieuse ou l'expression des croyances, pour qu'on puisse aller valablement devant le Conseil constitutionnel, qui risque de nous répondre, mais on ne vous empêche pas d'aller à la messe. Donc, vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Alors,
quelle est la question là?
Ma question, est-ce qu'il ne faudrait pas que... Est-ce que l'Église, par exemple, avec le texte du pape, du bon samaritain, qui condamne l'euthanasie, est-ce que c'est suffisant? Ou est-ce qu'il faut en dire plus au niveau... Bon, pour les prêtres, c'est très clair, hein, nous, bon. Mais pour les laïcs, par exemple, hein, pour les médecins laïcs...
Aucun document... religieux ne peut exercer la plus légère influence officielle sur une instance d'État français.
Non, je sais très bien.
C'est la fameuse séparation de l'Église
tout à fait.
Et de l'État qui était...
Mais à partir du moment où le chef incontesté, et ça, puisqu'il y a une nonciature en France, ça veut dire que la République reconnaît tout de même une certaine réalité au Saint-Siège. Bon. Et il y a même d'autres choses qui montrent que le pape est bien reconnu comme le chef de la religion catholique. Bon, si le chef de la religion catholique dit que la croyance et la pratique, c'est pas seulement, ça se réduit pas seulement au privé, mais à une action, enfin des actions publiques, à des actes publics, à ce moment-là, le Conseil constitutionnel n'a pas à juger de ce que dit le pape, mais il est bien obligé à ce moment-là d'avoir sous les yeux que si on respecte la croyance catholique, on ne doit pas mettre le délit d'entrave, et que si on respecte, si on ne veut pas faire de distinction, comme le dit la Constitution, entre les gens selon leur religion, eh bien on est obligé de retirer le délit d'entrave pour les catholiques, parce que sinon... Là, on se réfère au texte même, en ce qui concerne les catholiques, je ne sais pas ce que feront les autres, s'ils mettront des précisions ou pas des précisions. Autrement dit, est-ce qu'il faut que nous, maintenant, je dis maintenant, avant que la loi ne soit votée, est-ce qu'il faudrait mettre des précisions ou au contraire, est-il plus sage de ne pas en mettre ?
Et le problème, c'est que juridiquement, aucun texte religieux ne peut être pris en compte par Conseil constitutionnel. Vous le savez très bien.
Je le sais.
Il y a quand même quelque chose qui devrait nous intéresser dans notre débat. C'est le statut des objecteurs de conscience.
Voilà.
Ils sont reconnus.
Ils sont reconnus, alors, c'est De Gaulle qui l'a reconnu.
Et voilà. Je mets en avant deux arguments pour discuter ce texte. Alors, d'abord, trois. Le premier argument, c'est bien évidemment la question prioritaire de constitutionnalité qui aura pour objet de montrer que ce texte viole la liberté de conscience, qui viole le code pénal et qui viole la Constitution. Dans la presse, il y a la clause de conscience. Un journaliste peut quitter un journal avec des indemnités en plus s'il considère que la ligne éditoriale va contre ses idées, contre sa conscience. Donc la loi admet l'existence d'une sphère respectable, respectée, défendue, d'expression de la conscience. Et il y a ensuite le statut de l'objecteur de conscience. Alors là, s'ouvre un débat qui fait qu'on peut effectivement dire qu'une loi ne peut pas bafouer ce qui peut s'inscrire dans la conscience.
Absolument, effectivement.
Pour un catholique, pour un chrétien, le suicide n'est pas autorisé, n'est pas permis.
Non.
Au-delà de là, nous avons la chance, le mérite, le bonheur de discuter. Mais ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. C'est qu'on est embarqué pour s'y taire. C'est un embarquement d'une société vers les rivages de la destruction.
On est
des baleines qui vont s'échouer sur le rivage. C'est un vent de mort qui souffle sur cette société. C'est satanique ce qui se passe véritablement. Et l'Église, malheureusement, dans sa représentation hiérarchique, n'a pas la parole, n'a pas la force, n'a pas le souffle, excusez-moi de le dire, n'a pas le souffle pour le faire entendre. C'est bien dommage.
Oui. C'est vrai que on n'insiste pas assez sur le fait qu'il s'agit là d'un changement de civilisation complet. Voilà. Que c'est le signal d'un changement de civilisation et qui va... Moi, je ne donne pas un an ou deux ans pour que cette loi passe, pour qu'on voit des abus atroces.
Bon, mais bien évidemment, il va y avoir des héritages expéditifs.
Tout à fait. Tout à fait. Ça sera exactement...
Il y a un prêtre canadien qui raconte qu'il a été hospitalisé pour une fracture importante. Et on lui a demandé s'il voulait être euthanasié. Voilà, bien évidemment, il a répondu non, mais ça va vite maintenant. Hein.
Oui,
il a 74 ans, c'est-à-dire qu'il a dépassé l'âge de péremption. Voilà. On devient des produits, C'est terrible, hein, il y a des âges de péremption maintenant dans la société.
Ah bah, vous savez qu'il y a certains examens de prévention du cancer, la coloscopie par exemple, qui est refusée à des gens de 80 ans.
Oui.
J'avais une question pour ma part à Marie-Lise Pélissier, qui est porte-parole de la Marche pour la Vie, qui est avec nous ici, et je lui en remercie grandement. Sur la question du délit d'entrave, quel serait le risque pour votre mouvement ?
Alors, déjà, merci beaucoup pour votre invitation et merci à Maître Collard pour son intervention. Pour notre mouvement, c'est-à-dire pour les personnes qui se mobilisent publiquement contre l'euthanasie et pour demander le soin des personnes jusqu'au bout, le délit d'entrave pourrait avoir un effet, mais en fait, on ne peut pas vraiment le mesurer parce que il existe, par exemple, depuis la loi Veil, pour les personnes qui s'opposent à l'avortement. Et pour autant, on a toujours la liberté d'expression qui nous permet de quand même manifester notre opposition et proposer des alternatives. Après, c'est surtout une menace, c'est surtout quelque chose qui pèse et qui fait peur et qui nous oblige à prendre certaines précautions. On sait que quand même le docteur Dor avait subi une certaine peine, hein, quand même de la prison et une amende considérable parce qu'il avait donné des petits chaussons à des femmes qui voulaient avorter et cela a été considéré comme un délit d'entrave. Donc, au niveau de l'euthanasie, il suffirait de dire à quelqu'un, voilà, l'euthanasie, ce n'est pas une solution, c'est un abandon, et d'essayer de le convaincre de cette position pour qu'on porte plainte contre nous. Donc, le mouvement pourrait toujours exister, mais avec toujours cette possibilité, finalement, qu'on puisse porter plainte et qu'on nous accuse de porter atteinte à la liberté des personnes, alors qu'en fait, ça serait à notre propre liberté qu'on porterait atteinte.
Qu'est-ce que vous en pensez, maître?
Oui, non, je suis très d'accord. L'application, c'est vrai que dès l'instant où un texte existe, il est dans son application sous l'influence des circonstances. Dans une société qui évolue comme on le voit, dans une espèce de wokisme judiciaire, ce texte peut être appliqué sévèrement. C'est très dangereux quand un texte existe, parce qu'il peut ne pas être appliqué, il peut être appliqué légèrement, des magistrats peuvent trouver le moyen de ne pas l'appliquer, mais le fouet existe. Voilà. Et il peut être utilisé en fonction des circonstances. Donc, c'est un texte potentiellement dangereux. C'est ça qu'il faut voir.
Oui, c'est une menace, et quand on connaît l'état d'esprit d'un certain nombre d'élus de la République, tout parti confondu d'ailleurs, vis-à-vis du sentiment religieux, on a tout à craindre d'un texte écrit de cette trempe,
Mais
du
oui, parce
texte.
qu'on ne s'en rend pas compte, mais on a l'impression d'être en 1780, 80, fin 89, début 90,
Oui, absolument.
où on mettait en place des textes, des mesures qui paraissaient. Par exemple, quand on interdit le jeu de cartes avec le roi, le valet, cela paraît anecdotique, mais ça préfigure. L'élimination du roi, tout est signe, il ne faut pas l'oublier. Bon, alors donc, un texte comme celui-là, il est inquiétant en fonction des circonstances, bien évidemment.
Et qu'en fin août 1789, on dit que toute autorité vient de la nation,
Et voilà.
article 3, ben on prépare la constitution civile du
Et
clergé.
voilà, et
Et
voilà.
voilà,
Alors
et un schisme.
souvent, on ne voit pas,
Non,
hein,
non,
ce
non,
qui
ben,
est, qui...
oui.
Voilà.
Ben, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont voté ce texte d'enthousiasme sans penser une seconde. Et pourtant, il y avait quand même je cite cette phrase parce qu'elle montre jusqu'où peut aller l'orgueil humain. Un dénommé Camus, qui avait été parlementaire et qui était membre de cette Assemblée
Oui.
nationale, et qui a dit, sachez qu'en Assemblée nationale, nous avons le droit de changer la religion, mais nous ne le ferons pas. Ben, vous voyez, bon, mais ils l'ont fait quand même.
Bien sûr, mais on voit, alors ce qui me fascine et m'effraie en même temps, c'est que tous ces intersignes législatifs, médiatiques, positionnels, on les voit, mais on n'est pas capable, hein, on n'est pas capable d'en tirer les conséquences à venir, parce qu'on peut pas, on peut pas, on ne sait jamais ce que l'avenir va nous donner, hein, mais ce sont des armes potentielles, il faut les voir de cette façon-là.
Marie, pardon, allez-y.
Et en plus de cette arme potentielle, en fait, c'est vraiment un symbole fort, parce qu'à partir du moment où on crée un délit d'entrave, cela veut dire qu'on considère que cette fameuse aide à mourir, l'euthanasie, le suicide assisté, sont des droits, ce qui est d'ailleurs établi dès le deuxième article de la loi. Mais donc la volonté, même si ce délit d'entrave n'était pas utilisé, en fait, le fait même qu'il existe montrerait qu'on n'aurait pas le droit de s'opposer à un tel acte parce que, justement, ce serait un droit des patients. Et ce qui est évidemment totalement en contradiction avec la non-assistance à personne en danger, la prévention du suicide. Et d'ailleurs, je rappelle que avant la seconde lecture à l'Assemblée nationale, il n'y avait pas de délit d'incitation. C'est-à-dire que l'amendement qui avait été déposé par certains députés pour qu'il y ait un délit d'incitation à l'aide à mourir, au suicide assisté et l'euthanasie, avait été refusé. Il a finalement été adopté in extremis en février avant le vote final de la loi, mais notons-le tout de même, la peine n'est pas la même, c'est-à-dire que la peine est plus forte lorsqu'il s'agit d'un délit d'entrave que lorsqu'il s'agit d'un délit d'incitation. C'est quand même assez fort sur l'idéologie qu'il y a derrière cette loi.
C'est très
Voilà,
significatif, n'est-ce pas,
voilà.
maître?
Oui, mais on enlève tous ces textes qui sont le pur produit des réunions idéologiques. Ce sont des textes qui visent à créer un climat psychologique, à installer une terreur idéologique. Alors, on ne le voit pas maintenant, évidemment, mais vous vous rendez compte? Poursuivre quelqu'un en correctionnel parce qu'il dit, moi, je n'aime pas la mort, je ne veux pas que l'on pratique l'euthanasie, faire en sorte qu'il se retrouve en correctionnel avec quelle que soit la décision, tous les ennuis que cela représente, c'est l'opprobre. On criminalise une pensée de vie. C'est terrifiant. On criminalise une pensée de vie pour créer une ambiance, une atmosphère, un lieu circonstanciel où celui qui dira l'euthanasie, c'est pas une bonne solution, est bien considéré comme un délinquant. Voilà, le délinquant, c'est celui qui s'oppose à la mort distribuée. C'est quand même un renversement complet sur le plan de la philosophie du droit, sur le plan de la sociologie du droit, sur le plan du vécu du droit. Et je crois qu'on ne mesure pas ça, on ne le voit pas. On fait du partisan, à condition qu'il ne soit pas délirant, évidemment, on est tous d'accord là-dessus, du partisan de la sauvegarde de la vie, un délinquant. On lui met les menottes, peut-être.
Ben oui. Et alors que la justice est encombrée et que pour obtenir justice sur des choses assez importantes, il faut attendre beaucoup de temps, au détriment d'ailleurs, au détriment des citoyens honnêtes. Là, on va encore recharger de nouveau la
Ah
justice.
ben oui, ça, vous savez, Père Giot, Saint-Louis déjà se préoccupait des lenteurs de la justice
Ben, oui.
et il avait instauré la règle de la festinata.
Oui.
Allez vite.
Oui. Ah, ben c'est très bien. Là, vous me l'apprenez, je ne savais pas que.
Allez vite, voilà, festinata.
Une raison de plus pour prier Saint-Louis en ce moment, ainsi que la Vierge Marie, puisque je rappelle que nous sommes au mois de mai, c'est le mois de Marie, mais une raison de plus, d'ailleurs, il avait de grandes dévotions pour la Vierge Saint-Louis, donc de
Ah
s'adresser à
oui.
Saint-Louis, qui doit certainement prier pour la France en ce moment très fortement. Encore une dernière
Elle
question,
en a bien
maître.
besoin.
Oui, moi, c'est aussi
Une dernière.
sur les textes internationaux. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, en son article 18 et 19, garantit la liberté de conscience, la liberté de religion, ce qui est donc par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites, ça c'est l'article 18. Et l'article 19 garantit la liberté d'opinion et d'expression. Si le texte passe sur l'euthanasie, le suicide assisté, maître, on est d'accord qu'on est en totale contradiction avec cette déclaration.
Ah, complètement, complètement,
Et quel
complètement.
serait le risque pour notre pays si justement
Oh,
les choses...
aucun risque, d'autant plus que l'environnement culturel de ces institutions internationales est très favorable à toutes ces idées. si on avait un conseil constitutionnel qui n'était pas l'épingle des vieux rentiers des services rendus, on pourrait espérer une décision juridiquement conforme au respect des règles existantes. Parce qu'effectivement, il y a dans la loi des violations de l'ensemble des textes qu'on a évoqués. On ne va pas y revenir, hein, article 223.13, Constitution de 58, articles 18 et 19 de la Déclaration universelle, relation avec l'objection de conscience, relation avec la clause de conscience. Donc, il y a beaucoup d'arguments. Et puis, j'allais dire, merde, on a le droit de vouloir vivre, même si on est malade, même si on est... C'est un choix. Et on a le droit de dire que on est... À quel prix? Tant pis pour la vie, on a le droit, même si peut-être on peut être critiqué, discuté là-dessus.
Oui, tout à fait. Et puis, je répète tout de même, alors là, à l'unanimité, les députés ont voté quand même. Le Parlement a voté les soins palliatifs. Bon, alors, oui. Vraiment, et on, actuellement, à ma connaissance, on n'a pas ouvert de nouveaux centres de soins palliatifs.
Mais mon père, il faut se rendre à l'évidence.
Oui, c'est ça.
On n'a plus les moyens de soigner les Françaises et les Français.
Ah, ça, c'est clair.
On n'a plus les moyens. Moi, j'ai eu le témoignage encore hier d'un ami, ce prêtre avec qui j'étais pour ma conférence sur Saint-Louis. Il a été gravement malade, on l'a transporté à l'hôpital. Il a attendu 8 heures dans un couloir. Et il est ancien infirmier.
Oui.
Il est ancien infirmier, donc il a l'habitude de l'hôpital. Il n'en revenait pas, il me dit, j'entendais les gens crier, les gens se plaignaient. La sécurité a dû intervenir à plusieurs reprises, parce que des malades n'en pouvaient plus, certains sont tombés des brancards. Enfin, c'est effroyable l'état de la France.
Mais je sais...
Tout ça est masqué, tout ça est fait.
Vous savez, j'ai été de 2018 à 2024... la pastorale des funérailles du diocèse de Paris, et donc on s'occupait des enterrements de ceux qui ne voulaient pas aller dans leur paroisse, donc on faisait beaucoup d'enterrements, moi j'en faisais 5 ou 6 par semaine, hein, pendant toute cette période, et j'ai vécu la période du Covid. Je peux vous dire quand même qu'il m'est arrivé forcément quelquefois, parce que c'est une consolation pour les familles, de dénoncer les conditions horrible de notre système de santé actuellement. Et ben je me suis fait accuser de faire de la politique en chair, vous comprenez, hein. Et on s'en est servi pour m'éliminer. Bon, mais je crois que c'est le devoir de l'Église, et combien de grands évêques l'ont montré au cours de l'histoire, ou de simples prêtres, que d'avoir dénoncé en chair un certain nombre de choses qui était nuisible pour l'homme et qui était mauvaise. Je pense à la condition des vieillards dans certaines EHPAD, qui sont des boîtes à crever, enfin, des boîtes à des mouroirs.
Ah, quand on arrive à l'hôpital, malheureusement, on peut pas dissimuler son âge, mais si on pouvait trafiquer son âge, ça donne des chances de survie. Hein.
Absolument. Je suis hélas de votre avis. Et même, je vous dis, pour des demandes d'examen, On en arrive à mentir aux gens. Je reviens aux histoires de coloscopie qui préviennent quand même le cancer du côlon. Moi, ma secrétaire en est morte parce qu'elle avait eu le tort, voyez-vous, c'était d'avoir 70 ans quand elle a demandé la coloscopie. On lui a dit, ce n'est plus la peine à votre âge, mais de toute façon, vous ne pouvez pas l'avoir. Ça ne se développera pas. Et elle en est morte. Voilà.
Mais ces abrutis de médecins qui font ça ne savent pas qu'ils vont vieillir aussi, hein.
Ah oui, ça. Et oui, ils vont vieillir aussi. Et que même si ils auront intérêt à avoir des amis dans la boîte, si j'ose dire, parce que sinon, seulement comme ce sera les gens de la même génération, ils sont peut-être morts aussi en même temps, hein. Et que voilà. Mais en tout cas, c'est l'esprit de cette loi, et ça, il faut que nos auditeurs s'en rendent bien compte, hein. Ça ne concerne pas que les dépressifs ou les gens qui sont en fin de vie à cause d'un cancer épouvantable, mais ça concerne tout le monde. Et le fait de soigner ou de ne pas soigner, voilà. Puis à partir du moment où on inclut la mort dans les soins, ça fait partie des soins, eh bien, on peut décréter, alors, tout simplement, au nom du bien commun, tout simplement parce qu'on n'a plus d'argent, et qu'il faut, il faut s'occuper d'abord des jeunes qui sont plus rentables, et bien qu'à partir d'un certain âge, et bien on n'est plus soigné. Alors, il y aura évidemment ceux qui pourront s'en tirer, c'est ceux qui auront de l'argent. Voilà. Alors,
rappelez-vous, Anna Arendt le raconte dans son histoire des origines du totalitarisme.
Oui.
Quand Hitler a instauré l'élimination, l'éradication de malades mentaux, c'était dans un but de charité, dans un but de soin.
Ah ben j'ai vu les affiches, oui, la mort miséricordieuse et les affiches. Oui, c'était la mort miséricordieuse. Et puis les affiches sont très bien faites, comme toute la propagande. C'était Goebbels, qui était un génie diabolique. Vraiment du mal, n'est-ce pas? Mais qui était vraiment un artiste dans son genre, hein.
C'est un génie, comme
les photographes d'Hitler, d'ailleurs. C'était des génies.
Mais du reste, il a fait des émules, hein.
Il a fait des émules, là.
La propagande, elle continue, hein.
Ah bah d'ailleurs, les bons services de ces gens-là ont été utilisés en Allemagne de l'Est par les communistes.
Nos auditeurs, j'ai découvert que Klaus Barbie, le boucher de Lyon, avait été exfiltré par les Américains dans la fameuse rat ligne, hein, la ligne des rats, hein,
oui.
Et qu'il a servi l'Amérique pendant des années et des années, puis après il a été exfiltré en Bolivie.
On utilisait les compétences, pour les basses œuvres, voilà.
Voilà, non, mais c'est la raison pour laquelle il faut être très, très vigilant, très...
Oui, être très, intransigeant.
Très prudent et très vigilant, hein, très, très...
C'est sûr.
Il faut prier Saint-Michel.
Voilà, Saint-Michel, effectivement, c'est le spécialiste de la lutte contre le diable.
Oui,
je sais bien, vous savez, c'est aussi mon ange gardien, puisque je m'appelle Michel. Alors, il me le dit, c'est pour ça que je suis virulent là-dessus, et je ne cesserai jamais de l'être, parce que je considère que c'est la question capitale actuelle, et que si l'État franchit ce que j'appelle cette ligne rouge, pour moi, il n'est plus l'État. Ce n'est plus un État légitime. Voilà, je le dis très clairement.
Il va la franchir.
Je le crains.
Un grand merci à vous, en tout cas.
Merci, Maître Collard. Merci encore.
Merci à vous, hein, et passez un bon dimanche. Et merci, Pervio, pour votre homélie que j'ai diffusée sur ma chaîne Gilbert Collard TV. Elle passionne tous les dimanches les amis qui nous suivent. Hein. Merci.
Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.
Marie-Lise Pélissier, je voulais savoir quelle est la situation actuelle du projet de loi au Sénat. Je ne sais pas si la commission a arrêté ses travaux et si le débat va commencer.
Alors j'aimerais que vous nous parliez, si vous avez des nouvelles de la commission qui s'est tenue, et puis à partir de ces nouvelles, quels seraient vos pronostics?
Alors le 29 avril, la commission des affaires sociales du Sénat s'est réunie pour travailler sur ce fameux texte de l'aide à mourir. Alors, ils ont profondément modifié le texte, puisque bon, déjà au niveau sémantique, alors je dis pas que c'est mieux, hein, mais ils ont modifié. Cela ne s'appellerait plus l'aide à mourir, cela s'appellerait l'assistance médicale à mourir. Alors, beaucoup de journaux ont titré, notamment l'AFP, hein, je crois, le Sénat supprime le droit à l'aide à mourir. Alors, je suis allée vérifier dans le texte de la commission et c'est faux puisque l'article 2 a été conservé tel quel, c'est-à-dire l'article qui ouvre un droit. Et donc, cela reste un droit. Donc,
Quel journal a dit ça? Cette nouvelle, elle vient d'où?
Alors, je peux vérifier. Il me semble que l'AFP l'a dit.
Ah ben, mais, ça... Oui, non, mais donc, si l'AFP l'a dit, ça me suffit parce que maintenant, ils diffusent à tous. Voilà.
Voilà,
les journaux vont chercher. Tous les journaux lisent l'AFP. Voilà. Bon. Bah, oui. Déjà, ça nous montre quelque chose de grave, parce que c'est le centre de l'information.
C'est en tout cas une manipulation sur les termes, parce que le Sénat n'a pas supprimé l'acte létal, et pourtant, c'est ce qu'on souhaiterait, mais on verra bien ce que donneront les débats. Donc, ce texte qui sort de la commission est plus restrictif avec donc ce terme d'assistance médicale à mourir qui est réservé pour, contrairement à ce qui était prévu par les députés, réservé aux personnes qui ont un pronostic vital engagé à court terme. Ce qui est tout de même différent, puisque dans le texte des députés, il s'agissait de phase avancée ou terminale, et tous les médecins disaient que c'était très flou et qu'une phase avancée pouvait durer des mois, voire des années. Là,
Absolument.
voilà, les sénateurs ont tenu à dire que cette piqûre hein, serait réservée à ceux qui ne vivraient encore que quelques heures, voire quelques jours. Donc, ils ont essayé de réduire ces conditions d'accès. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ils se sont basés, le début de leur rapport parle de l'étranger et de toutes les dérives qu'il y a à l'étranger. Et ils partent de ce constat-là en disant, eh bien, quand on voit tout ce qui se passe à l'étranger avec l'augmentation des demandes, l'élargissement des critères, on doit être prudent et on doit extrêmement encadrer cette fameuse. Ce fameux nouveau droit.
Alors une
Donc,
petite question, vous venez de parler
c'est
d'étrangers. Est-ce qu'au niveau de l'étranger, il y a un ou deux pays qui émergent le plus, qui sont des exemples qui existent le plus? Moi, j'ai mon
Alors,
idée, mais je voudrais savoir.
je pense que en ce moment, on parle beaucoup des Pays-Bas. Donc, les Pays-Bas augmentent. Alors, vous savez, aux Pays-Bas, il y a toujours. Ils ont ouvert hein, l'euthanasie pardon, aux mineurs et puis pour les personnes qui ont des troubles psychiques. Et en 2024, selon le National Review, 30 personnes de 15 à 29 ans ont été euthanasiées pour troubles psychologiques. Donc c'est quand même assez
C'est terrible.
représentatif voilà, de ce qui se passe. Ce même critère de maladie mentale va être autorisé au Canada en 2027. Les évêques, justement, les évêques du Canada là, ont pris la parole tout récemment pour soutenir une loi qui empêcherait cet élargissement de l'accès de l'aide à mourir. Donc vous avez cet aspect des psychique qui est aussi très présent en Belgique. Donc je pense que Canada, Belgique, Québec, Pays-Bas, et puis bien sûr on a eu récemment aussi le cas de l'Espagne. On pourra parler si vous souhaitez de l'affaire Noelia. Donc c'est vrai qu'on parle de plus en plus des exemples étrangers. Ça fait déjà en fait des années qu'on en parle, mais il semble que ça puisse toucher certains parlementaires.
Absolument. Ça m'a quelques mots sur l'affaire d'Espagne, s'il vous plaît.
Alors,
Rapide.
Noelia a été euthanasiée, comme vous le savez, elle avait 25 ans. Elle a été victime de plusieurs viols. Elle avait déjà un parcours difficile, hein, familial, des placements dans des familles d'accueil, etc. Et elle avait fait une tentative de suicide, notamment, qui l'a rendue paraplégique. Ce qu'il faut savoir, c'est que Noelia, déjà, elle n'avait pas une maladie incurable. Elle avait certes des souffrances chroniques, mais elle n'avait pas de maladie incurable. Elle n'était pas en fin de vie, bien sûr. Et surtout, c'était une jeune fille qui avait beaucoup de troubles mentaux psychologiques qui étaient reconnus. Elle était suicidaire, elle avait des pensées suicidaires. Donc, bien sûr, les pensées suicidaires, vous savez que ça va, ça vient. Enfin, je veux dire, c'est difficile d'avoir quelque chose de vraiment constant. Donc, il y a eu ces doutes qui ont été exprimés parfois vis-à-vis de sa décision sur l'euthanasie, qui ont été assez mal pris en compte par l'hôpital. Pourquoi? Notamment à cause d'un facteur qui est le don d'organes. Noelia, tout d'abord, avait signé en faveur du don d'organes. Elle avait dit oui, qu'elle voulait bien donner ses organes. Et puis sa mère, qui était, elle, opposée à l'euthanasie, mais qui est restée près de sa fille, mais toute sa famille, hein, toute la famille de Noelia a été opposée à cette euthanasie. Sa mère lui a dit, écoute, Noelia, pense à nous, pense à ta famille, s'il te plaît, ne donne pas tes organes. Donc Noelia a dit d'accord, je change d'avis. Normalement, dans la loi espagnole, vous avez juste à vous exprimer oralement pour dire que vous ne voulez pas donner vos organes, cela suffit. Sauf que dans ce cas-là, Noelia, en fait, tous ses organes étaient déjà réservés pour des receveurs. Et donc, forcément, voilà, conflit d'intérêts, l'hôpital lui dit. Ah non, non, il faut nous faire une demande écrite. Et donc, elle a dû faire plusieurs demandes, plusieurs fois de suite, alors qu'encore une fois, normalement, dans la loi, il n'y a pas besoin. Et elle a dû finir chez le notaire pour vraiment acter le fait que ses organes ne seraient pas donnés. Donc bien sûr, il y a eu quand même toute une pression, un débat avec l'hôpital au milieu de cette décision de l'euthanasie. Et puis il y a autre chose moi qui m'a beaucoup marquée parce que j'ai rencontré l'avocate de Noélia et qui du coup nous a vraiment expliqué le fond de l'affaire. Ils ont accès au journal intime de Noélia. En fait, la famille, donc je vous disais, la famille était contre l'euthanasie. Le père s'est battu en justice. La mère a décidé de rester près de sa fille, mais tout en souffrant, bien sûr. Aujourd'hui, elle en souffre encore énormément. Et en fait, moi, c'est ça qui m'a frappée aussi, c'est de voir à quel point, voilà, on prône la liberté individuelle sans prendre en compte, en fait, tout l'impact que cela va avoir sur la famille. C'est comme un peu si on nous volait, en fait, on nous volait une personne. Et en fait, ce qui était prévu, notamment au moment de l'euthanasie, c'est que la famille de Noélia reste derrière la porte pour que si Noélia change d'avis, elle puisse crier. Et voilà, c'était convenu. Comme ça, la famille revenait dans la chambre si jamais Noélia avait peur, parce qu'elle avait déjà exprimé ses peurs. Et la famille est sortie au moment au moment où Noélia allait être euthanasiée. Ils se sont mis donc comme convenu devant la porte. Et là, les médecins leur ont dit, non, non, vous devez monter à l'étage. Et donc ils n'ont même pas respecté ce qui était convenu. Donc la famille a été éloignée et ils n'ont pas pu finalement assister au dernier moment de leur fille. Mais donc voilà, il y a quand même beaucoup de dessous, la division de les fractures, les blessures dans les familles, chose qui avait déjà été relevée dans le sondage de la Fondapol et qui doivent, je pense, particulièrement nous inquiéter.
Mais il y a eu quand même, alors, en Espagne, non,
Est-ce
moi.
que les organes ont été donnés finalement?
Finalement, non. Non, ils ont réussi à obtenir qu'il ne soit pas donné. Et en fait, il y avait un conflit d'intérêts aussi sur le don d'organes parce que ce qui est illégal, c'est que c'était la même personne qui s'occupait de Noélia et qui s'occupait de la transplantation d'organes.
Ah oui.
Or, normalement, c'est
Non.
séparé. Surtout que, bien sûr, vous savez qu'il y a des dimensions lucratives.
Oh, énorme.
Voilà, c'est évidemment le don d'organes est gratuit, mais ceux qui travaillent dans la transplantation d'organes sont payés.
Ils sont
Donc, en
prêts,
fait, des
oui.
dimensions économiques aussi.
Bien, un moment pour le bobino.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris.
Et Marie-Lise, sur le Sénat maintenant, si on revient au Sénat, quel est, je ne sais pas si vous êtes en lien avec des sénateurs ou si vous avez pu en contacter certains, mais selon vous, on se dirige vers quoi au Sénat?
Est-ce qu'il y a eu vraiment, parce que bah, on nous a fait le coup avec le président de la République, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont été un peu retournés, je vais pas dire qu'ils se sont convertis, mais enfin qui ont réfléchi à la gravité de la chose et qui ont, disons, changé d'avis?
Alors oui, je pense que l'aspect radical et extrême du projet de loi Falorni a bousculé certains parlementaires qui ont finalement voté contre. Ils le disent, hein. Il y en a qui disent qu'ils étaient pour et qu'ils sont basculés parce qu'ils ont vu l'extrême radicalité du projet de loi et puis les conditions très 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 large. Je pense que certains ont pu être touchés aussi par certaines prises de parole des malades, des soignants. Donc oui, honnêtement, on ne peut pas dire que les lignes ne bougent pas. Là, les sénateurs sont assez attachés à la question de la liberté de conscience également. Ils ont renforcé la clause de conscience dans ce texte de la commission. Ils l'ont élargi aux pharmaciens, aux psychologues, au personnel des établissements et des services médico-sociaux.
Et l'Église?
Alors, ils n'ont pas parlé spécifiquement de l'Église, ils ont parlé des clauses de conscience collective, donc c'est-à-dire que cela s'adresserait, par exemple, aux établissements de santé tenus par des religieuses, qui pourraient refuser, selon ce
Très
texte,
bien. C'était
d'avoir
leur
des...
grand souci.
Ce qui est voilà, important, alors est-ce que ça tiendra? Je ne sais pas. Alors, c'est vrai que moi, Nous, notre inquiétude à la Marche pour la vie, hein, c'est que finalement, ils adoptent un texte encadré sous prétexte qu'il soit encadré, alors qu'en fait, déjà, on sait que les garde-fous ne tiendront pas, mais surtout, quand bien même ils tiendraient, enfin, légaliser l'euthanasie reste extrêmement grave, même si c'est dans le cas d'une maladie incurable, puisque cela revient toujours à tuer un patient et à faire passer l'acte de tuer comme un soin. Donc, ça reste dramatique. Donc, le Sénat est dans une optique de restreindre l'accès, mais la question, c'est comment vont se passer les débats et est-ce qu'on ne va pas revenir à la situation de janvier où ils avaient eu la même optique, donc ils avaient réduit le texte en commission et finalement, il avait été rejeté parce qu'il ne convenait ni à ceux qui sont contre l'euthanasie, comme je venais de vous dire. Quoi qu'il arrive, ni à ceux qui sont pour et qui considèrent que le texte est trop restrictif. Donc voilà, on ne sait pas trop, mais il est probable, en tout cas, les pronostics penchent plutôt pour un rejet du Sénat. Après, comme vous disiez au début d'émission, en politique, tout peut arriver, on ne peut pas tout prévoir et donc on verra bien comment se positionnent les sénateurs. Mais c'est vrai que j'en profite pour dire que... J'ai l'impression que la mobilisation sur ce sujet s'est quand même beaucoup essoufflée après le second vote à l'Assemblée nationale. Beaucoup ont cru que la loi était votée. Et merci de nous redonner la parole sur ce sujet, Vervio, parce qu'en fait, ce n'est pas terminé et on a encore besoin de notre mobilisation auprès des sénateurs, auprès du grand public et auprès des parlementaires.
Oui, certainement. On a toujours besoin des sénateurs, surtout en ce moment. Hein.
Et est-ce qu'au Sénat, le délit d'entrave a été conservé dans la version de la
Non,
commission? Non?
oui.
Comment?
Ils ont supprimé le délit d'entrave à la commission.
Bon, mais vous savez qu'il y aura de toute façon, si il vote ça, c'est donc un texte différent de celui de l'Assemblée, et que par conséquent, il y aura une commission paritaire qui va se réunir entre sénateurs et députés pour
Alors,
essayer.
oui,
Alors, pour
en
essayer.
théorie. Mais le Premier ministre peut décider de ne pas faire de commission mixte paritaire et de finalement recommencer les navettes entre l'Assemblée et le Sénat. Mais ce qui est plus probable, c'est la commission mixte paritaire.
Oui, parce que il y a quand même, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. C'est une initiative qui vient du président de la République et il avait mis dans son programme d'ailleurs d'élection. Et il y a quand même des gens qui devraient aujourd'hui se poser des questions. Je parle de ceux qui ont fait voter pour lui ou qui d'une certaine façon, sans dire de voter pour lui, ont fait en sorte que les voix se reportent sur lui alors qu'il y avait l'euthanasie et le suicide assisté dans son programme. C'est clair, ça. Et qu'il y a donc un certain nombre de gens que j'aurais la charité de ne pas désigner, qui devraient se poser des questions morales et religieuses, s'ils sont religieux. Bon, je pense aussi, comme vous, que les navettes sont à exclure, parce que déjà cette Chambre des députés est tellement bizarre et fonctionne d'une. Enfin, ceux qui, de temps en temps, regardent les débats, c'est pas la peine qu'on en dise plus, vous savez, comme moi. Mais c'est la commission paritaire qui va être. Je crois que c'est la seule solution actuellement. Mais dans une commission paritaire, on n'arrive pas forcément à un accord. Et à ce moment-là, c'est triste à dire, mais ça peut être la loi Falorni toute seule qui, finalement, elle avale des députés. Ça peut
Oui,
être demandé. C'est que même à supposer que la commission paritaire présente quelque chose allant dans le sens de ce que vous dites. C'est déjà beaucoup mieux. C'est très dangereux quand même, hein, vous le dites vous-même. C'est extrêmement dangereux. Et je pense que même si ça s'est voté, je pense que l'Église devra dire quelque chose. Enfin, une opinion personnelle, mais moi, je suis pas. C'est pas à moi de le dire, c'est à d'autres de le dire. Bon.
Ce qui est vrai, c'est que ce qui est un peu inquiétant, et ce qui va dans votre sens, c'est que bon, j'ai appris récemment, par exemple, qu'il y a un sénateur, je tairai le nom, mais un sénateur qui est tout à fait, je crois, catholique, hein, et puis tout à fait de notre. D'accord sur le rejet de l'euthanasie, sur le respect de la vie, qui a dit récemment, bon bah si dans la loi il y a la clause de conscience collective pour les établissements de santé, je voterai pour. Donc il y a un relativisme qui s'instaure, peut-être une lassitude, mais une lâcheté aussi de finalement ne plus vouloir se battre en se disant bon si on arrive à obtenir ça, c'est bon, on accepte. Mais on ne peut pas, enfin, ce texte est inacceptable juste par sa substance même qui est d'autoriser l'acte létal.
Oui, d'autant que je vais vous donner un exemple. J'ai participé, c'était à l'époque où j'étais protestant. J'ai été délégué par la Fédération protestante de France avec un autre confrère. Et puis, on est catholique. Quand on a discuté de la loi sur l'avortement, bon. Qui elle aussi, en 1974, était très encadrée. Il y avait la clause de conscience. Bon. Souvenez-vous de. Ça remonte à pas si longtemps, hein. Ça remonte au temps du président Hollande, donc voyez-vous, c'est pas si vieux. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, voulait supprimer cela. Et j'ai fait plusieurs émissions ici à Radio Courtoisie, j'espère que ça a contribué. Pour dire non, qu'on ne pouvait pas, mais elle se préparait, et il y a eu des attaques, évidemment, il y a des gens qui se sont opposés de manière un peu curieuse, disons, à l'avortement, mais enfin bon, ils s'y opposaient, mais voyez-vous, la loi votée en 1974, clause de conscience respectée, et après, sous M. Hollande, il y a déjà le ministre de la Santé qui propose de la faire sauter et de poursuivre avec délit d'entrave, n'est-ce pas ? Et obligation faite pour le médecin qui refuse l'avortement de dire donner l'adresse d'un confrère qu'il accepte. Et alors moi, j'avais dit ici à cette antenne et je le répète, c'est comme si moi, prêtre, un de mes paroissiens me disait au confessionnal, Monsieur le curé, j'ai envie de tuer ma belle-mère. Mais je ne sais pas trop comment faire, puis je ne voudrais pas qu'elle souffre. Dans vos relations, vous n'auriez pas quelqu'un qui pourrait s'y prendre bien, n'est-ce pas ? Voilà, je suis prêt à donner de l'argent, voilà, un homme, bon, et que je lui donne une adresse. Mais, aux yeux de la loi...
C'est une complicité.
Hein, même en dehors de toute question religieuse, aux yeux de la loi. Mais je suis complice. Bon.
Oui, bon. Ça serait la même chose sur l'euthanasie.
Et voilà. Ça va être la même chose pour l'État. Et il se passera, si la loi restrictive des sénateurs est... Je suis pour leur restriction, bien évidemment. Mais je regrette qu'on n'ait pas remis en cause le problème même. Et il s'est trouvé personne pour remettre en cause la question elle-même du suicide assisté et de l'euthanasie sur le simple fait. Et vous, je laisse de côté les questions religieuses. Sur le simple fait que tout le monde était d'accord sur les soins palliatifs. Hein? Je laisse la religion de côté. Je reste laïque. Hein? Oubliez que j'ai un col. Hein? Bon, il y a unanimité des parlementaires sur les soins palliatifs. Alors, pourquoi qu'on explique sur le plan rationnel, hein? Je ne demande pas une apparition, un miracle, que sais-je encore, non. Je demande qu'on me démontre. Pourquoi ce débat ? Il est complètement inutile si nous avons des centres de soins palliatifs. Et ça veut dire aussi, forcément bien sûr, des gens formés pour ces soins, parce qu'on ne s'improvise pas soignant palliatif. J'ai reçu ici longuement un spécialiste de la question avec un représentant de l'archevêché de Paris, il y a déjà deux, trois ans, hein, c'est toute une application, parce qu'il y a toute une panoplie de produits qui sont à la disposition des médecins, mais encore faut-il connaître leur dosage, faut-il savoir l'adapter à l'âge de la personne, à son état de santé au moment où on va faire cela, le but étant de supprimer la douleur et de maintenir le plus possible la conscience, mais en ayant comme but premier quand même de supprimer la douleur. Bon, alors l'équilibre des deux est très difficile, et ça déjà, en 1957, j'aurais rappelé ça à nos auditeurs, hein, c'était un an avant sa mort, le pape Pie XII recevait, vous connaissez peut-être ce discours, recevait toute une assemblée de soignants. Et on lui a posé la question. Il a dit que pour des gens qui souffraient, qui étaient en fin de vie, il fallait bien entendu combattre d'abord la douleur. Et que on ne peut pas, c'est pas charitable de laisser souffrir. Mais il fallait faire en sorte que ils puissent quand même garder leur conscience le plus possible. Et alors là, moi, je peux vous dire en tant que quelqu'un qui est un praticien, si j'ose dire, de l'agonie des gens, que le moment où quelqu'un quitte ce monde est un moment de vérité, extrêmement important, pour la famille, si elle est là, et pour celui qui s'en va. J'ai vu, par exemple, des malades mentaux retrouver complètement leur lucidité. L'espace d'une confession. Ou régler des problèmes. Et ce temps qui leur était donné était important. Parce qu'ils partaient apaisés. Voyez-vous ? Et c'est ça qu'il faut essayer de se mettre dans la tête. Et pour la famille aussi. Pour la famille aussi. Il n'y avait pas une brisure. Il n'y avait pas quelqu'un qui partait dans des cris épouvantables. Non. Mais qui partait apaisé. Mais alors. Et le pape, justement, recommandait, à l'époque, en 1957, nous n'avions pas toute la panoplie qu'il y a aujourd'hui. Bon. On voit, aujourd'hui, il y a une panoplie extraordinaire. Extraordinaire. Bon. Mais, justement, c'est parce qu'elle est très nombreuse, qu'il faut donner aux gens le temps et la possibilité de se former si on a comme premier but le bien du malade qui est sur la fin de ses jours et le bien aussi de sa famille qui va le perdre. Voilà. Or, ce qui montre bien l'hypocrisie de nos politiques, c'est que les deux chambres ont voté à l'unanimité les soins palliatifs, et qu'à ma connaissance, on n'a pas ouvert un nouveau centre de soins palliatifs, alors que nous avons 25 départements, je crois, qui n'en ont pas. Oui. Alors ça, moi, je n'admets pas. Et je dis qu'un État qui cautionne de telles choses est indigne de respect.
Et c'est là où on voit que la volonté de légaliser l'euthanasie et le suicide assisté sont idéologiques. C'est faux de dire que c'est pour le soin des personnes, c'est faux de dire que c'est pour les plus vulnérables. Parce que si vraiment ils voulaient respecter l'ordre, il faudrait d'abord que les soins palliatifs soient répandus partout, que tout le monde puisse y avoir accès, et après on pourrait peut-être se poser la question de la liberté des personnes de demander l'aide à mourir. Parce qu'encore une fois, c'est bien mignon de parler de liberté alors que cela va concerner des patients qui n'auront pas forcément accès aux soins palliatifs. Bah. Donc, c'est-à-dire qu'ils auront le choix entre une médecine inadaptée à leur situation de santé et la mort.
Eh oui, mais tout ça parce que, pour reprendre le langage de notre président de la République, hein, qui a parlé récemment de ma boule, mais ça coûte un pognon dingue. Ça aussi, c'est de lui, ça. C'est pas de moi comme expression. Hein. Ça coûte un pognon dingue. Mmh. Eh oui.
Et Jérôme Lejeune, qui parlait au micro de Radio Courtoisie il y a longtemps, disait oui, ça coûte cher de prendre soin des malades et des handicapés, mais c'est le prix que coûte une société humaine. Et je trouve ça très vrai parce que, d'accord, on va pas nier que ça a un certain coût économique, d'investissement, d'effort, mais en fait, si on veut garder une société qui est humaine, qui est civilisée, bah, il faut mettre ce prix-là.
Vous avez raison. Ça coûte cher d'être humain, mais humain comme Dieu le veut, humain droit, voilà, avec les règles de Dieu qui sont les règles de la loi naturelle. Et la loi naturelle, elle est pour la vie. Elle va dans le sens de la vie. La mort, l'homme n'a pas été créé pour mourir. Pour ce plan,
Non,
bon.
et c'est d'ailleurs ce qui m'a choqué. Je lisais dans France Info un article justement sur Noélia où il disait Noélia a été euthanasiée, elle a réussi son combat. Alors là, je me suis dit, mais c'est effrayant quand même de dire une chose pareille. Ça
Ah
veut
bah
dire
sur
que.
France Info, c'est pas étonnant. Enfin, voilà.
Malheureusement.
C'est la Pravda du régime, avec d'autres chaînes. Ben oui, c'est la Pravda.
C'est terrible de se dire quand même, ils osent affirmer qu'une jeune fille qui était suicidaire, qui avait subi moult injustices dans toute sa jeunesse, fait de vouloir mourir, le suicide, la mort, son combat. Ouais, c'est totalement faux. Pour elle, c'était simplement qu'elle ne voyait que ça comme solution.
C'est oui, c'est plutôt l'échec d'une société,
Clairement.
l'échec de son entourage, et puis l'échec de la société tout court, qui aurait pu lui proposer, parce que des situations de ce genre, j'en ai connu, hein, et il y a des remèdes, et faut pas baisser les bras, c'est tout. C'est difficile, c'est bien évident, mais il y a des remèdes. Hein. J'ai été aussi, vous savez, 10 années aumônier de prison. Bon, on est surpris par les possibilités qu'il y a de réadaptation et de changement complet de gens, pourvu qu'on s'occupe d'eux. Évidemment, il faut s'occuper d'eux, parce que si vous ne vous occupez pas d'eux, ils vont recommencer. Bon.
Monsieur.
Mais si on s'en occupe, on a vraiment de grands taux de réussite. Et c'est moi, je suis extrêmement joyeux, par exemple, quand j'étais invité pour baptiser l'enfant d'un de mes anciens détenus que j'ai marié. Hein, et puis, j'ai baptisé son. Bon, voilà. Donc, il n'y a pas de fatalité. À partir du moment où on croit à l'amélioration de l'homme possible, bon, moi je veux dire bien sûr par la grâce de Dieu, mais cette grâce de Dieu, elle va intervenir au niveau de soins psychologiques, au niveau d'attention, au niveau d'un entourage, d'amour.
Pour rebondir sur ce que vous dites, Pervio, et évoquer aussi les signes d'espoir qui existent en Europe, j'aimerais évoquer avec vous l'actuel archevêque de Canterbury, Sarah Mullally, qui, alors le 31 décembre dernier, a affirmé à la BBC, dans un échange avec l'ancienne première ministre Theresa May, et ça rejoint ce que vous dites, je la cite, « Nous ne finançons pas correctement les soins palliatifs. Je crains que certaines personnes prennent la décision de recourir à l'aide à mourir » parce qu'elles n'ont pas accès aux soins palliatifs appropriés ou au soutien social nécessaire. Et elle va encore plus loin et elle dit, je pense que nous devons prendre soin des plus vulnérables de notre société. Nous devons adopter une vision selon laquelle chaque personne est créée à l'image de Dieu. Et alors, comme on sait, la Grande-Bretagne, donc l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles ont refusé l'euthanasie. Marie Spessier, est-ce qu'on peut aussi, je dirais, voir aussi un signe d'espoir? Et est-ce que vous avez eu des échos justement sur ce qui s'est passé en Grande-Bretagne?
Alors oui, bien sûr qu'on peut voir un signe d'espoir. Alors, il y a deux choses différentes. L'Écosse, ils ont vraiment rejeté le projet de loi, tandis que en Angleterre et au Pays de Galles, il y a eu un facteur de calendrier, disons, qui a joué, qui a permis qu'en fait le projet de loi échoue. Mais bien sûr, ce retardement a été due à l'opposition de certains politiques en Grande-Bretagne. Donc, pour nous, c'est un grand signe d'espoir parce que, comme je l'ai plusieurs fois dit, ce n'est pas une fatalité que l'euthanasie et le suicide assisté soient adoptés. Le fait que l'Angleterre soit nos voisins, que soit notre voisin et que voisine pardon et que en fait les pays qui sont tout autant développés que nous rejettent ce projet et ne le considèrent pas comme un progrès nous invite à aller dans le même sens et prouve aussi qu'en fait ce n'est pas le lot de tous les pays tels qui sont au même à peu près dans le même cas de figure que la France que de légaliser l'euthanasie et le suicide assisté parce qu'on nous dit très souvent la France est en retard, la France est en retard, on n'a toujours pas autorisé ce fameux droit, alors que c'est totalement faux parce qu'encore une fois, il n'y a que 5% des pays de l'ONU qui ont légalisé l'euthanasie et ou le suicide assisté. Donc la France n'est pas en retard et au contraire, elle serait peut-être en avance sur cet aspect-là et nous devons toujours donner la priorité aux soins des plus vulnérables. Et en fait, Pervio, c'était beau ce que vous disiez parce que quand on parle du soin des plus vulnérables, si on n'est pas soignant, parfois on pourrait se dire ça ne nous concerne pas. Alors qu'en fait, cela nous concerne tous parce que déjà on est tous confrontés à la vulnérabilité, on a tous des grands-parents ou des malades dans notre entourage et quand bien même si on n'a pas dans notre entourage, allons nous-mêmes voir ces malades, voir ces personnes âgées qui souffrent très souvent de la solitude et c'est notre responsabilité collective. Et le problème de cette loi, c'est que cette loi est aussi notre responsabilité collective. C'est-à-dire qu'on va tous être complices d'une certaine manière. Il va y avoir l'euthanasie qui va être la solution de facilité pour ceux qui sont seuls. On le voit au Canada, beaucoup sont poussés à cet acte par la solitude. Et donc nous, ça va complètement nous déresponsabiliser des personnes plus âgées, des personnes malades et des personnes vulnérables. Donc c'est à nous dès maintenant et chacun, pas que l'Église, pas que les soignants, mais bien chaque personne dans la société, de s'intéresser à toutes les personnes qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux, ne serait-ce même pas forcément sur un point de vue médical, mais aussi humain.
C'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni est extrêmement important. Et je voudrais quand même faire remarquer que c'est un pays qui était profondément marqué par le protestantisme au XVIe siècle. L'anglicanisme et le presbytérianisme en Écosse, donc le calvinisme. Ça veut dire à chaque fois, même s'ils ne sont pas d'accord sur certains points, il y a un point sur lequel ils sont absolument d'accord, c'est l'autorité de la Bible. Et que même dans ces pays-là, comme d'ailleurs dans les pays scandinaves où la pratique religieuse protestante a baissé au profit du catholicisme qui s'est réinstallé, qui s'est réinstallé en Angleterre aussi, eh bien, les catholiques qui sont dans ces pays anciennement protestants mettent beaucoup plus la Bible en avant que nous, par exemple en France ou en Italie. Et que les philosophes de ces pays-là, on l'a bien vu au XVIIIe siècle, avec la philosophie des Lumières, ont toujours respecté la Bible de l'autre côté de la Manche. Jamais un philosophe du Royaume-Uni ne se serait permis de dire sur la Bible ce que Voltaire a écrit. Jamais. Il l'a tourné en dérision. Donc vous voyez comme quoi ça reste ça. Hein? Et l'exemple de l'archevêque de Canterbury, cette dame, ça a fait tant d'histoires. Je trouvais ridicule et méchant le fait qu'on reprochait au pape de l'avoir. Elle était en tenue d'archevêque. Écoutez, oui ou non, on a décidé qu'on parlait avec les anglicans. Oui ou non, on a décidé. Oui, on a raison. On a raison. D'ailleurs, actuellement, il y a beaucoup d'anglicans qui deviennent catholiques. Bon, alors c'est pas notre perte. Bon. Je ne sais pas pourquoi le pape aurait demandé, aurait été grossier vis-à-vis de cette dame, lui demander d'aller porter une robe noire, alors que sa communauté la reconnaît comme évêque, voyez-vous. Eh bien, c'est une libérale, au point de vue de classement théologique. Enfin, ceux qui m'écoutent et qui connaissent un peu la théologie savent ce que ça veut dire. D'ailleurs, le fait qu'en tant que femme, elle soit évêque, montre déjà un certain libéralisme théologique. Mais voyez-vous, elle fait une déclaration contre. Voilà, elle reste fidèle au texte biblique.
Et on pourrait dire que sa parole a autorité, étant donné que c'est une ancienne cadre infirmière. C'est une ancienne infirmière, Sarah Mulally, et qui justement, en raison justement de son expérience, affirmait ce qu'elle affirmait à la BBC. Moi, je voulais aussi dire, on est bientôt sur la fin, Marie Spécier, quelle réponse peut-on aujourd'hui apporter, nous tous, hein, je parle à ceux qui s'opposent au projet de loi, puisque pour le moment, le projet de loi n'est pas encore voté. Donc, quelle action on peut encore mener? Et si jamais, par malheur, le projet de loi venait à être voté, quelle justement réponse collective pourrait-on justement apporter?
Alors, actuellement, là, à court terme, il ne faut absolument pas lâcher la mobilisation auprès des députés, puisque ce sont eux, finalement, qui vont voter cette loi. Et donc, nous, nous avons le devoir, en tant que leurs électeurs, ils nous représentent, nous devons leur dire notre opposition ferme.
Absolument, ça, c'est tout à fait logique.
Voilà, en argumentant, et il ne faut pas hésiter à chercher toutes les associations, nous, La Marche pour la Vie, puis il y a Alliance Utah, la Fondation Le Jeune. Plusieurs initiatives existent et vraiment, ce n'est pas compliqué de trouver un moyen de contacter son député. Mais moi, j'alerte sur le fait que les mails ne sont pas forcément lus. Il faut aller voir le député. Voilà, c'est un investissement personnel peut-être
supérieur. Comment le faire dans le cadre du Sénat?
Alors, dans le cadre du Sénat, effectivement, ce n'est moins direct. On peut quand même écrire à son sénateur. On peut tout de même aller le rencontrer parce qu'il y a des permanences de sénateurs hein, dans les régions. Donc, on peut tout à fait... Les contacts, tout est public hein, sur nos élus. Donc, on peut contacter tous nos sénateurs sans problème. Et moi, j'invite notamment ce qu'on avait fait en première lecture au Sénat, c'est qu'on était devant le Sénat pendant tout le long des lectures et on rencontrait les sénateurs quand ils sortaient de l'hémicycle. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être prêt à rester parfois un peu tardivement, mais c'est vrai qu'ils étaient assez marqués de voir souvent des jeunes, mais pas que, qui étaient là devant le Sénat jusqu'à très tard, parfois 1h du matin, pour juste leur dire « Monsieur, qu'est-ce que vous pensez de l'euthanasie? Est-ce que vous êtes content de ce qui se passe ?» et puis d'échanger un petit peu avec eux. Et c'est là, Perviot, où en fait, moi, j'ai remarqué que certains n'étaient pas campés sur leur position concernant l'euthanasie et le suicide assisté. Et que je me dis qu'il y a quand même encore une des cartes à jouer auprès de ces sénateurs-là, si oui. On arrive à argumenter nos positions.
C'est un beau témoignage, et vous avez raison. Vous avez raison, c'est malgré tout ce que j'ai dit, bon, moi je suis d'un naturel un peu pessimiste, mais il faut faire ça, c'est ce qu'il faut faire, et c'est votre droit en tant qu'électeur. Bon, évidemment, nous toujours à cause de ce même problème de la séparation des Églises et de l'État, moi, si je faisais la même chose, ça serait pris d'une autre façon, vous comprenez? Bon, ce qui ne veut pas dire que si malheureusement les choses sont votées, il ne faudra pas que l'Église reste indifférente. Il faudra qu'elle vous rejoigne d'une manière ou d'une autre. Hein. Ah, et d'une manière visible.
On a besoin de la présence et de la mobilisation des évêques et des prêtres. On en a vraiment besoin. Les laïcs en ont besoin d'être soutenus par leurs prêtres parce que parfois ils sont un peu perdus. On est tous pris dans cette mentalité, l'indifférence ou la pitié fallacieuse. Vous savez, c'est Saint Jean-Paul II qui disait ça dans la prière pour la vie. Et donc, en fait, on n'a plus trop de repères et on a besoin que l'Église ait une parole forte. Alors, elle, là, au niveau du Vatican, au niveau des évêques de France, ils ont quand même sorti une tribune qui était claire. Mais, en fait, tout le monde ne les lit pas. Ça, il faut que les prêtres en parlent dans les paroisses, dans les homélies, qu'ils disent à leurs paroissiens, on rappelle la position de l'Église sur tout ça parce que, il y a beaucoup de gens qui se disent catholiques et qui se disent pour le
je sais bien, moi j'ai parlé, j'ai fait dans un sermon à Paris, un sermon où j'ai dit beaucoup de choses contre, pas contre l'euthanasie, c'était contre l'avortement. Il y a une dame qui est sortie et qui n'est plus jamais revenue et qui était médecin, et qui était une dame pratiquante, voyez-vous. Et il a fallu que, bon, bah, malgré le fait que mon cher curé, qui est un ami, enfin, soit allé auprès d'elle, elle n'est jamais revenue. Voyez-vous? Voilà. Donc, mais je crois que, si vous me permettez de vous donner un conseil, je pense que à l'issue de du témoignage juste que vous menez en ce moment, en allant voir les sénateurs, si ça revient à la Chambre des députés, en allant voir les députés, bon. Mais si cette loi est votée, il faut que vous demandiez d'une manière officielle l'appui de l'Église. Et je pense que, compte tenu, il faut prendre les situations telles qu'elles sont dans les pays. Hein. Bon, l'Église est séparée de l'État et l'Église est catholique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'Église catholique de France. Il y a une Église catholique en France. Que le chef de l'Église catholique, c'est le pape. Alors, vous n'allez pas bien sûr écrire au pape.
Ah, j'ai écrit au pape.
Ben, bien. Bon, bien, enfin, voyez-vous. Moi, je respecte la hiérarchie. Je pense que vous êtes tout à fait en droit d'écrire au président de la Conférence des évêques de France. Vous êtes aussi en droit d'écrire au nonce apostolique en lui envoyant le double de la lettre que vous avez envoyée au président de la Conférence des évêques de France. Et nous avons la chance d'avoir un cardinal qui est président de cette conférence. Donc c'est un collaborateur direct du pape. Mais il faut respecter le nonce. Voilà. Voilà ce que je vous demande, mais et il faut que vous le fassiez savoir. Mmh. Ah ben voilà, il faut que non seulement, mais que ce soit, disons, une lettre publique, voilà. Il faut que vous ayez fait une double démarche. Vous avez fait une double démarche et il faut que vous le fassiez savoir. Et puis alors, rien ne vous interdit, bien sûr, de parler à des prêtres. Enfin, c'est tout, ils verront avec leur évêque. Voilà. Je crois que nous arrivons au terme de notre émission et je vous remercie pour tout ce que vous faites. Vous travaillez pour l'humanité telle que nous la souhaitons. Et vous travaillez dans le sens que l'Église veut. Vous rendez un témoignage chrétien, un témoignage d'amour et de charité pour les plus faibles. Merci.
Merci à vous.
Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par l'abbé Viau, assisté d'Armand, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, dimanche 3 mai 2026, de midi à 13h30, et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix fonds de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.